François Skuyten, c'est un bonheur de vous retrouver lors de vos conférences de presse qui sont toujours spectaculaires et celle-ci l'est en particulier. Nous sommes à bord d'un train vapeur qui nous conduit vers un dépôt à Louvain où on va voir La Douce. Alors, La Douce, si vous deviez nous raconter la première rencontre que vous avez faite avec la vraie Douce.
Alors c'était dans ce fameux dépôt de Leuven. J'étais là pour un petit peu voir le matériel dont je pourrais disposer pour le futur Train World, donc ce futur musée du chemin de fer en Belgique. Et il y avait là, dans ce dépôt, toute une série de machines, dans un endroit un peu sombre, c'était un peu mystérieux. Il pleuvait à certains endroits. Le dépôt, d'ailleurs, va bientôt être détruit. Les machines vont être entreposées ailleurs. Donc c'est un moment un peu exceptionnel qu'on va vivre là, parce que c'est un des rares moments où on le verra encore. Et donc quand j'ai vu cette type 12 au milieu de tout ça, c'était vraiment une apparition. Elle était un peu, elle appartenait à un autre monde. Elle était comme si elle était enracinée dans cette histoire, dans notre histoire, et en même temps, elle avait un lien avec le futur, elle avait un côté vraiment les visions des trains de demain, des années 50, et j'adore regarder les gens voir une locomotive à vapeur. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est chouette de sentir cette émotion, comme si ça ranimait des souvenirs longtemps enfouis. Et donc voilà, c'est le premier choc a été là et vous allez le revivre un peu mis en scène parce qu'on a un peu quand même arrangé les choses, mais c'était pour moi évident qu'il fallait que j'en fasse une histoire. Elle était tellement graphique, tellement un objet de maîtrise, bien sûr technologique, avec ses routes plus de 2 mètres, son profil, son carénage aérodynamique, et en même temps on est en vapeur, une espèce de contraste comme ça saisissant entre une technologie ancienne et en même temps une forme très puissante. J'ai été complètement conquis et je me suis dit que j'allais aller plus loin, parce que déjà j'étais en contact avec les cheminots, je les rencontrais, je discutais avec eux, j'étais en immersion. Ça j'adore quand vous voyez la fumée comme ça qui entre dans les maisons parfois. Ça, je trouve ça formidable. Regardez ça, on se rend compte comment devaient être les villes quand les trains traversaient les faubourgs et amenaient ces trains au cœur des gares. Ça devait être assez extraordinaire.
Et c'est vrai que ce qui est beau aussi, c'est la fascination que la machine exerce encore aujourd'hui, oui. Comme si tout le monde était projeté dans le passé.
Voilà, exactement. Mais parce que, vous savez, je crois que c'est une histoire, le train nous a construit. Le train, c'est dans nos racines, c'est dans notre ADN. Il a modifié notre société, notre façon de penser, nos villes. Il est en nous, l'histoire du train. Alors, il ne faut pas grand-chose pour le faire surgir. Et c'est sûr que quand on touche à ça, on sait qu'on touche à quelque chose. Vous savez, à un moment donné dans l'histoire, j'ai eu un moment où j'ai commencé, j'avais beaucoup de doutes et tout ça, j'étais tout seul. Et puis, à un moment donné, j'ai senti, ouais, je sais pourquoi je fais cette histoire. Je suis sûr que s'il n'y a qu'une histoire que je dois faire dans ma vie, c'est celle-là maintenant. Et donc, ce moment-là, je l'aime beaucoup parce qu'on dit, bon, on peut se tromper, on peut être à côté de la plaque, on peut faire des erreurs, mais je sais que je dois faire cette histoire. J'ai dit à Benoît, j'ai dit, tu sais, je ne sais pas trop ce que je fais, je ne sais pas où je vais, mais je dois le faire.
Oui, on sait que Benoît Peters, pour une fois, n'est pas associé au scénario. Alors, est-ce que c'est une décision que, d'une certaine manière, l'apparition de La Douce vous a suggéré? Est-ce que vous avez ressenti tout de suite le besoin de raconter l'histoire en plus de la beauté graphique à laquelle vous étiez confronté?
Oui, il y a plein de choses qui se sont mises. Vous savez, une histoire, c'est un ensemble, ce sont des couches, ce sont des millefeuilles. Il y avait bien sûr des aspects liés à cette locomotive, mais il y a aussi des aspects de basculement de société, il y avait des aspects sur le réchauffement climatique, sur les inondations, il y a des aspects sur la passation de savoir, il y a des aspects sur la vieillesse, sur le... il y a des tas de choses qui m'ont obsédé. Moi, je suis un peu comme Hergé, je pense que j'aimais beaucoup quand il disait tout ce qui m'intéresse dans l'année, j'essaye de le mettre dans mon histoire. Et c'est ce qui fait que les histoires sont chargées, sont pleines de vie, de force, de beauté. C'est parce que justement, elles sont au cœur de votre vie.
Comment s'est passé le dialogue entre François Skuyten, scénariste, et François Skuyten, dessinateur? Est-ce qu'il y a eu des conflits, est-ce qu'il y a eu des concessions, ou au contraire, une liberté beaucoup plus grande de l'un et de l'autre?
C'est une question intéressante. Quand on est auteur, qu'on est en même temps dessinateur, en même temps scénariste, pour moi, c'est la position idéale. Avec Benoît, on essayait toujours de se rapprocher de ça. Parce que la bande dessinée, c'est du dessin et du scénario, c'est inextricablement lié. Il n'y a pas de séparation entre l'un et l'autre. Et donc, quand on est l'un et l'autre, l'avantage, c'est que ben justement, parfois, on fait des choses, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est peut-être ni du dessin, ni du scénario. C'est en tout cas de la bande dessinée, parce que le dessin vient en même temps que le texte. Le texte se mêle au dessin. Et c'est là où on se dit qu'on est quand même au cœur du métier qu'on fait.
Au cœur du métier d'auteur de bande dessinée, il y a aussi les personnages. Alors, vous avez un casting assez intéressant avec un cheminot, qui est le personnage central, Van Bell, que j'imagine a inspiré de vos rencontres, et puis des personnages issus du réel, comme Jaco Van Dormael, qu'on reconnaît dans un des personnages.
Oui, même la jeune fille, Elia, est une jeune fille qui est une danseuse, s'appelle Timaï, qui est une danseuse qui m'a beaucoup inspiré, parce que j'avais besoin de sortir un peu de mes réflexes, de mes clichés. Surtout sur les femmes, les dessinateurs ont des fâcheuses tendances à répéter, et je trouve que je le fais encore un peu trop, de répéter un peu le rêve féminin qu'il a en lui. Et donc, pour ça, j'ai vraiment fait un casting pour essayer de trouver. Et Jaco s'est imposé parce que déjà, comme il était un peu comme un gardien, comme un compagnon pour m'aider, il s'est imposé. Et surtout qu'il vit avec une danseuse. Alors ça m'a aussi beaucoup inspiré. Et puis j'aime bien, j'ai vécu avec Jaco tout le travail d'effets spéciaux de Mr. Nobody. On vivait ensemble, on allait en avion, on allait au Canada. Et donc en le voyant, en vivant avec lui, en dormant avec lui presque, j'ai pris goût à ce corps-là. Et à le voir bouger, à le voir vivre.
Et alors, le personnage de Van Bell, par contre, lui, est issu de différentes rencontres avec les cheminots. C'est plus la partie documentaire qui a nourri aussi votre travail.
Exactement. C'est un personnage qui est un personnage composite. Il y a un peu de moi, parce que je posais parfois... on m'a pris en photo, ma fille me prenait en photo pour quelques positions que j'aime bien que ce soit assez étudié. Il faut de la liberté, en même temps, il faut beaucoup de détails qui rendent crédibles les situations. L'avantage avec la Type 12, c'est que je pouvais aller la voir. Et je pouvais aller dedans. Et je pouvais. J'avais un modèle réduit devant moi et je pouvais aller la voir. J'ai fait des centaines de photos parce que je voulais presque la dessiner au rivet près. Parce que je trouve que ce qui est important, c'est qu'on y croit. Et c'est qu'on ait le sentiment, allez, j'y étais, quoi. J'ai le même souci, vous savez, que beaucoup de dessinateurs ont et que nos maîtres avaient. Franquin, quand il dessinait une voiture, c'est le plus grand dessinateur de voitures que je connaisse. Hein. J'ai l'impression qu'il la connaît par cœur, qu'il l'a construite.
Alors, vous avez fait un choix esthétique qui est le noir et blanc, hormis la couverture où on découvre une certaine beauté plastique de ce vert olive de la Douce. Comment s'est fait ce choix? C'est pour marquer la distance avec les cités obscures?
Il y a des cités obscures en noir et blanc. Non, chaque livre, je me pose la question, est-ce que je le fais en couleur, est-ce que je le fais en noir et blanc? J'ai pas d'a priori. Ce que j'ai envie, c'est que ça s'impose. Mais là, avec le charbon, regardez l'odeur qu'on a, avec la suie, l'huile, ça doit être en noir et blanc. Ça sent le noir et blanc. Donc, ça s'est imposé naturellement. Et puis, vous savez, quand on lit une bande dessinée en noir et blanc, c'est vraiment une... On oublie, on est dans d'autres couleurs. On laisse au lecteur une part d'imaginaire qui est celle, justement, qui se fait ses contrastes. Il fait son réglage. Et d'ailleurs, avec la réalité augmentée d'Asso System, à un moment donné, elle est aussi en couleur.
Alors, ma dernière question est reliée, cette fois-ci, au passage du noir et blanc vers la nouvelle technologie. Oui. Parce que, d'une certaine manière, le noir et blanc est un peu une image relié au passé, mais en même temps, vous l'exploitez dans la nouvelle technologie à travers ce monde virtuel que vous avez créé avec Dassault.
Oui, c'est ça qui m'intéressait, c'était que je trouvais qu'on était un basculement technologique avec la Type 12. On est dans l'objet d'une très grande modernité et en même temps accroché à un passé qui maintenant est définitivement tourné. Et donc, je trouvais que c'était formidable si on avait, avec ces planches de bande dessinée en noir et blanc, qu'on avait la possibilité d'avoir de la haute technologie, de faire surgir ce qui peut-être est le plus sophistiqué aujourd'hui, c'est à partir partir d'un livre, ça me plaisait beaucoup évidemment, c'est que c'est à partir d'un livre, on a un livre entre les mains, un livre avec du carton et du papier et un beau garde-à-pattes, enfin bon, et de pouvoir faire surgir la locomotive, j'avais là, je trouvais une tension porteuse d'imaginaire où le lecteur devient un metteur en scène, où le lecteur devient un acteur et quelque part prolonge la quête du machiniste de Léon Van Belle.
Mais là aussi, vous avez piégé les nouveaux technologues, je dirais, en utilisant la page de garde en papier pour alimenter une animation futuriste.
Je suis bien content de piéger les technologues, comme vous dites. Et je pense que, d'ailleurs, les choses ne se dessinent jamais comme on croit. Moi, c'est sempiternel sujet, la disparition du livre en opposition avec l'iPad. Je comprends pas. Je trouve que c'est très beau, un iPad. Je suis très intéressé par l'iPad. Ce qui souvent me fâche, c'est quand les passages se font un peu automatiquement, sans réflexion profonde et sans être irrigué par une nécessité, par un rêve. Et je crois qu'il va s'inventer plein de choses. Je ne doute pas. Et je ne doute pas que le livre restera encore longtemps au cœur de cette invention.
François Scalutin, on vous écouterait pendant des heures, mais il y a de nombreux collègues dans le train qui rêvent de vous rencontrer. En tout cas, je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de immédiatement se plonger dans la 12, dans toutes ses versions, noir et blanc, virtuelles, et peut-être d'aller visiter le musée lorsqu'il sera ouvert du chemin de fer. Merci François Scalutin.
Merci à vous.